J'ai un message sur mon cœur que je voudrais déposer qui va un petit peu dans la pensée de ce que nous avons commencé avec le temps de Sainte-Seine. Et je voudrais vous inviter à ouvrir votre Bible dans 2 Rois au chapitre 6, versets 14 à 17. Je profite pendant que vous cherchez sur vos ordinateurs, vos iPads et tout ça, ou même directement sur vos Bibles, ce passage. Je voudrais saluer les frères et sœurs qui sont derrière leurs écrans. Que Dieu vous bénisse. Voilà, l'Église Paris Métropole sont de tout cœur avec vous. Cette Église est avec vous et pour vous. On prie pour vous. On a vraiment une passion pour vous et c'est pour ça que nous filmons tous les cultes les dimanches. Nous voulons vraiment partager ce que nous vivons ici. Alléluia. Et ça, c'est le cœur qui parle et nous voulons vraiment être avec vous chaque fois que vous êtes connectés au travers de nos vidéos. C'est un honneur, un privilège de pouvoir nous écouter et nous voulons vraiment avoir cette pensée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va ouvrir alors ensemble la parole de Dieu, 2 Rois, chapitre 6, verset 14. 2 Rois, chapitre 6, verset 14. Le titre de ma prédication est le suivant: la vérité est supérieure à la réalité. Ça vous va? C'est bon comme programme? Bon menu? La vérité est supérieure à la réalité. Écoutez-moi bien. Le roi, verset 14, le roi de Syrie envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ?» Et il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. » Amen. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Encore un amen. Amen. Verset 17. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Un texte incroyable. Un texte qui est pour moi une bombe, une dynamite dans notre vie, pour notre réalité chrétienne. Le roi de Syrie était en guerre contre Israël. La parole nous le dit dans le contexte, si vous lisez tout ce chapitre, vous verrez que le roi de Syrie s'était confronté avec le peuple d'Israël et à deux reprises, le roi de Syrie tenta une embuscade contre Israël. Mais là, il y a un mais. Le mais, c'est qu'à deux reprises, Élisée déjoua ses plans. Il déjoua ses plans parce que la parole de Dieu nous dit un petit peu plus haut qu'Élisée voyait en esprit ce que prononçait le roi de Syrie. Il nous est dit dans ce texte, verset 12, on ne l'a pas lu mais c'est juste au-dessus, il dit qu'Élisée, c'est le serviteur du roi de Syrie qui dit, Élisée, le prophète, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. C'est-à-dire que Élisée voyait en esprit ce qui se disait dans la chambre à coucher du roi de Syrie. Et dans la chambre à coucher du roi de Syrie, le roi était en train de parler, d'échanger dans l'intimité en disant « On va attaquer Israël par ici ». Et là, Élisée recevait ses paroles en esprit, des paroles divines, des paroles spirituelles. Et ce qu'il recevait, il le disait au roi d'Israël. Et à deux reprises, le roi d'Israël a déjoué les plans de l'ennemi. C'est-à-dire qu'Élisée prit connaissance des manœuvres militaires hautement confidentielles. Parce qu'il y avait chez lui un esprit qui était au-dessus des autres. À cause de cela, la Bible nous dit que le roi de Syrie déclara la guerre à Élisée. Et là, il y a quelque chose d'incroyable. Sache, mon frère, ma sœur, que le diable, lui aussi, va te déclarer la guerre. À partir du moment où tu es connecté avec le divin, le diable te déclarera la guerre. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que le roi de Syrie arrête de se battre contre Israël pour s'attaquer au prophète. C'est-à-dire qu'il arrête de se battre contre le peuple d'Israël pour s'attaquer à une seule personne. Incroyable. C'est-à-dire que Élisée, à lui seul, il a fait trembler le roi de Syrie et tout son peuple qui va avec. À lui seul, il a fait trembler les terres de l'adversaire. C'est-à-dire que là, dans ce passage, on s'aperçoit qu'Élisée était dans une telle dimension avec Dieu, telle connexion avec le divin, que toute l'armée terrestre ne pouvait pas, je dirais, être à la hauteur. Et on voit que l'adversaire tremblait face à un seul homme. Élisée était dangereux pour le roi. Et au cœur de la stratégie militaire du renseignement, il a été dangereux. Et sache que toi aussi, tu es dangereux pour l'adversaire. À partir du moment où tu es connecté avec le divin, tu es dangereux pour l'adversaire. Il va s'arrêter de se battre avec les armées autour pour te battre toi, pour te confronter toi. Il voudra te faire peur dans tous les domaines de la vie. Il voudra te mettre toutes sortes de raisonnements, toutes sortes de craintes. Il voudra essayer de te paralyser. Il a voulu paralyser Élisée et on va le voir un petit peu plus loin. Puisque le serviteur dit ceci dans 2 Corinthiens 6,15, c'est le serviteur qui parle, il sort alors qu'il avait dormi, il avait une bonne nuit de repos, et il sort, il se lève, et il va dans la ville et il dit ceci, verset 15, « Serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux, des chars, et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « À mon Seigneur, comment ferons-nous » Et peut-être que tu es dans cette réalité ce matin, « Seigneur, comment je vais faire ?» Comment je vais faire face à l'adversité? Comment je vais faire face à la réalité qui est là devant moi? Comment je vais faire face, je dirais, à mes dettes? Comment je vais faire face à mon patron qui me harcèle? Comment je vais faire face à la maladie? Comment je vais faire face à mon couple qui part en dérive? Il y a une réalité, il y a un combat spirituel. Le diable a laissé de côté, je dirais, le peuple d'Israël pour t'attaquer toi. Parce qu'il t'en veut, parce que tu es dangereux. Parce qu'il voit chez toi un potentiel spirituel. Parce qu'il voit chez toi des capacités divines. Il voudra stopper, comme il a voulu essayer de stopper Élisée dans la marche de Dieu, dans la marche spirituelle. Et ce serviteur, lui, n'était pas encore dans cette réalité. Et il dit une réalité humaine, terrestre. Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Élisée avait un regard spirituel. Élisée était connecté au royaume de Dieu et il avait une autre vision des choses. Et il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là d'incroyable. Et non seulement il dit ça, mais Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et j'aime Élisée parce que Élisée était sage. Élisée n'est pas venu pour dire, « Ah, t'es un serviteur incrédule. » Pas venu écraser son serviteur. Il aurait pu, parce que bon, il y avait une certaine autorité que le serviteur n'avait pas. Mais il n'est pas là à lui dire que tu es un incrédule. Et Dieu n'est pas là pour te dire que tu es un incrédule. Dieu n'est pas là pour t'écraser. Et je crois que personne ne devrait venir te voir pour te dire que tu es un incrédule. Il y a une réalité qui est là. C'est ça, ces chevaux et ces soldats de Syriens. C'est une réalité. Et il était conscient forcément parce qu'il avait des yeux humains, des yeux charnels, des yeux terrestres. Mais lui, Élisée, quand il est venu au contact de cet homme, de ce serviteur, eh bien, il dit, écoute, je vais prier pour toi. Il y a une passion dans son cœur. La Bible nous dit, verset 17, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit ses yeux, les yeux du serviteur qui vit la montagne. Écoutez bien, la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. La différence, c'est que d'un côté, il y a les chevaux et les chars, et là, avec Jésus, il y a les chevaux et les chars de feu. Il y a le feu divin, il y a le feu spirituel, ce qui est en toi, dans ton cœur, ce que tu es en train de vivre, il est en toi, là. Et ce feu qui est en toi, qui brûle en toi, te permet de dominer ces chars. Et je dirais cet adversaire, ce Syrien, ce qui vit en toi est plus fort que ce qu'il y a dans le monde. Et nous sommes dans une guerre spirituelle et Dieu veut te faire voir sa réalité. Dieu veut te montrer des choses que tu ne vois pas encore. Dans ce contexte, le serviteur d'Élisée était inquiet, c'est vrai. Et peut-être que toi, tu l'es. C'est humain. La réalité est là. Pas besoin de se tromper, pas besoin de nier la réalité. Nous ne pouvons pas nier les troupes, les chevaux, les chars. Tu ne peux pas lier tes problèmes financiers, les conflits de couple, peut-être un conflit professionnel, la maladie. Impossible de nier certaines réalités. On n'est pas dans le déni, là. On est responsable. On sait ce que nous sommes en train de vivre. On sait ce que nous sommes en train de subir parfois. Mais il y a une chose qui est très certaine, c'est que la crainte vient de ce que l'on voit humainement. Mais la foi vient de ce que l'on voit spirituellement. Et parfois, dans ce monde de ténèbres, je veux croire qu'il y a des lunettes nocturnes spirituelles. Où on va voir, je dirais, les ténèbres avec une clarté, avec un visuel, je dirais, spirituel. Avec les lunettes du royaume de Dieu. Le Seigneur voudrait juste te montrer autre chose ce matin. Il voudrait juste te dire, écoute, ok, tu es ce serviteur et je comprends ce que tu es en train de vivre. Et c'est vrai qu'il y a des chars, c'est vrai qu'il y a des soldats, c'est vrai qu'il y a des chevaux. Ils sont tout autour de cette ville, nous dit la Bible. Mais je vais te montrer autre chose. Cette chose que tu ne vois pas encore. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que la réalité humaine, c'est ce que tu vois. Les chevaux, les chars, les problèmes. La réalité divine, c'est ce que tu ne vois pas encore. Et la parole de Dieu nous en parle dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Il dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et moi, je dis qu'on ne voit pas encore. Permettez qu'on le dise, hein, qu'on ne voit pas encore. Mais je vais le voir. Et je suis prêt à le voir. Je décide à le voir. Ça me fait penser, c'est pour ce que je vais expliquer là, c'est pas pour la jeune génération, mais j'ai connu, et beaucoup d'entre nous ont connu, la photo argentique. Aujourd'hui, c'est tout en numérique, tout passe par les CD, les clés USB, tout ça, c'est voilà, sur ordinateur, il n'y a pas de souci. Mais à l'époque, vous aviez des pellicules qu'on sortait en argentique. Et il y avait tout un traitement en laboratoire. Et j'ai connu un frère qui était photographe, un excellent photographe, et il m'avait donné l'occasion de rentrer dans sa chambre noire pour développer les photos. Et en sortant les pellicules, en faisant le traitement, tout ça, à un moment donné, il me dit, tu as vu, cette photo, elle est noire. J'ai dit, oui, effectivement. Elle est noire. J'ai dit, oui. Tu sais qu'il y a quelque chose derrière ? Il dit, oui, forcément, il doit y avoir. Il y a l'image, oui, mais on ne la voit pas. Et c'est un peu ça aussi au niveau spirituel. Frères et sœurs, comprends une chose. C'est que tu es comme cette photo. Là, aujourd'hui, tu es face à une réalité. Elle est noire, cette réalité. Elle n'est pas réjouissante. Peut-être tu pleures dans ta chambre. Peut-être que tu es venu ici cassé, brisé, et puis tu n'es pas rentré dans le temps de louange. Et t'espères juste que la prédication ce matin te concerne. Et tu te retrouves face à cette photo noire. Et ce frère me disait, regarde ce qu'on va faire. Il a mis cette photo dans un bain qu'on appelle le révélateur. Et en déposant cette photo, quelques secondes après, on voit disparaître le noir et voir apparaître l'image. Et on a vu ce beau paysage, cette première photo que j'ai, c'était un beau paysage dans les Pyrénées. J'ai dit, waouh ! C'est-à-dire que la photo était là, l'image était là, les Pyrénées étaient là dans cette photo, mais je ne la voyais pas, cette image. Tu es dans une réalité. Il y a cette photo qui est imprimée. Il y a les promesses de Dieu qui sont imprimées dans ta vie. Mais tu ne les vois pas encore. Et c'est ce que veut te proposer le Seigneur Jésus ce matin. Il veut te prendre à part, comme Élisée a pris son serviteur, sans te reprocher, sans t'accuser, dire, je vais prier pour toi. Pour que tu puisses voir une autre réalité. Celle qui est vraiment la réalité divine, celle du royaume. Il y a celle qui est terrestre, qui te paralyse, mais il y a celle qui est au-dessus de cela, et c'est celle qui va te libérer, celle qui va te transformer, celle qui va te bouleverser. Dieu veut t'amener et t'amènera à voir les réalités du royaume. Dieu t'amènera à rentrer dans ce monde spirituel. Il le désire pour toi. Dieu veut t'amener à voir les réalités divines. Et ça, c'est quelque chose que tu dois désirer. C'est pour ça qu'il est dit au verset 17, le serviteur vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. C'est-à-dire qu'il y a une protection divine autour d'Élysée. Il n'a pas paniqué, Élisée. Il a vu une réalité, mais il en avait une autre, qui était plus grande que celle qui était terrestre. C'est-à-dire que Dieu veut briser tes filtres afin que tu puisses voir la solution à tes problèmes. Il y a un filtre qui est là. Le diable montre ton problème, mais Jésus montre la solution à ton problème. Et cette solution à ton problème, il va te la montrer en ayant les regards différents, changés, des regards qui vont s'orienter là où Dieu te demande de les voir, les yeux fixés sur le maître. Le diable, je dirais, à sa vérité, mais Jésus, lui, va te montrer sa vérité. Il va te montrer qui il est. Plus notre vision du royaume de Dieu sera distincte, moins nous aurons la crainte des réalités d'ici-bas. Je répète, plus notre vision du royaume de Dieu sera distincte, moins nous aurons la crainte des réalités d'ici-bas. Et c'est pour ça que dans Matthieu 6, 33, il dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses te seront données. » Cherche premièrement, il y a une priorité. Et plus tu vas rentrer dans la réalité du royaume de Dieu, et moins nous aurons la crainte de ces réalités d'ici-bas, qui sont évidentes, certes, mais Dieu veut te montrer autre chose, qui est encore plus évident, plus grand, plus puissant que ce que le diable veut te montrer. Regardez l'exemple de Moïse, Hébreux chapitre 11, verset 26. Il nous a dit qu'il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur le rémunérateur. Ce texte, quand vous y arrêtez quelques instants, vous dites « Waouh !» Nous, on se plaint parfois qu'on se retrouve dans un foyer hostile parce qu'on a de la famille qui est inconvertie, et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident parfois. On va se retrouver peut-être dans un milieu professionnel hostile parce qu'on a un patron rebelle, parce qu'on a une ambiance pas top. Parfois, on va se retrouver au milieu d'un environnement qui, je dirais, rempli d'opposition. Là, Moïse était au milieu d'un peuple hostile, d'une culture hostile, d'une culture à l'opposé de la sienne. Quand on parle d'opposition au travail ou dans notre environnement, lui, Moïse, a baigné au milieu de l'idolâtrie, a baigné au milieu des prêtres. La Bible nous dit qu'il était au milieu des divinités, au pouvoir surnaturel. Vous voyez ce que je veux dire, au pouvoir surnaturel ? D'une culture démoniaque. Alors, on comprend mieux après quand il dit qu'il regarde l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur le rémunérateur. Parce qu'il était dans un tel contexte spirituel, avec les angoisses, avec la mort, avec les ténèbres, avec les puissances, avec l'idolâtrie, tout ce qui était opposé à Dieu, il était en plein milieu. Et il dit ceci, j'avais les yeux fixés sur le rémunérateur. Les yeux fixés nous donnent accès au-delà des sirènes de ce monde. Les yeux fixés nous font rentrer dans le surnaturel divin. C'est pour ça qu'il dit un peu plus loin, il dit au verset 27, Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme quand en voyant celui qui est invisible. Et c'est fort ce texte, parce qu'il dit, Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui était invisible. Parce qu'il savait qu'en quittant l'Égypte, il allait avoir la colère du roi. Avec tout ce qui va avec, avec les prêtres contre lui, avec les divinités contre lui, avec l'idolâtrie contre lui, avec ses œuvres démoniaques contre lui, il savait très bien qu'il allait avoir un acharnement sur sa vie. Mais parce qu'il a appris, parce qu'il a eu les yeux fixés sur le rémunérateur, comme Élisée a tiré, a prié pour ce serviteur en disant « Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il puisse voir autre chose ». Et en voyant ce autre chose, en voyant cette dimension du royaume de Dieu, eh bien, on comprend mieux après quand il dit ceci, Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé. C'est-à-dire qu'en regardant les choses divines, spirituelles, tu vas avancer avec le Seigneur sans crainte, sans pression, sans peur, sans retenue. Il y aurait mille une choses qui pourraient te retenir en disant « je ne peux pas ». Je sais que Dieu est tout puissant, mais j'ai une réalité qui est trop forte. Moïse aurait pu dire, c'est vrai que la réalité est tellement forte, je ne peux pas sortir, je ne peux pas rester, je ne peux pas bouger, ce n'est pas possible. C'est, pour lui, il serait été justifié humainement parlant, justifié de ne pas quitter l'Égypte, justifié de ne pas bouger un seul poil, je dirais, de son corps et dire, on va rester sage. Et là, on parle de sagesse. Oh, restons sages, frère. Sage. Sauf que là, en restant sage ici, il allait mourir. Toi, si tu restes sage dans ta réalité, tu vas mourir. Parce que la réalité que tu es en train de subir n'est pas celle que tu crois. Tu crois en Jésus, tu déclares Jésus vainqueur, mais tu ne le vis pas. Et c'est pour ça que Dieu te dit, au lieu de regarder à la réalité qui est ici horizontale, regarde à la réalité verticale. que tu regardes à lui, les yeux fixés sur le rémunérateur. Ça me fait penser à Daniel, ça. Daniel, alors qu'il y avait eu le décret du roi, à un moment donné, on a tous déclaré qu'il fallait adorer que le roi seul, et c'est terminé, et personne d'autre. Mais qu'est-ce qu'a fait Daniel ? Il a vite couru dans sa chambre, comme à son habitude, il a ouvert les fenêtres, il s'est mis à genoux, et il a commencé à déclarer les puissances de Dieu, la puissance du roi des rois, et il ne s'est pas laissé effrayer par la réalité. Ça l'a amené, certes, c'est vrai, à aller rencontrer les lions à la fosse, mais à ce moment-là, les lions faisaient un jeûne et prière. Alors bon, ça n'a pas posé de problème. Mais quand ils sont sortis du jeûne et prière, que les autres sont rentrés à la place de David, ça a fait mal. Daniel, pardon. Ça a fait mal. Mon frère, ma sœur, aie le regard ailleurs. Au bon endroit. Et si tu ne peux pas, on va prier pour toi. Si tu n'arrives pas à voir au-delà de ta réalité, on va prier pour toi. Pour que tu puisses regarder aux réalités divines. Moïse avait tout contre lui. Il y a tellement de chrétiens qui sont tenus par la peur. Dieu enlève le voile qui sépare le monde naturel au monde spirituel. Dieu veut enlever ce voile aujourd'hui. Et moi, je veux déclarer ce matin que Dieu retire toute peur sur ta vie, toute menace de l'adversaire, toute crainte qui te paralyse, toute pression qui t'empêche de te déployer. Tout chantage, toute colère, toute manipulation sur ta vie. Je veux croire qu'en regardant ailleurs, tu vas être comme Élisée. Élisée n'a pas discuté, Élisée n'a pas échangé avec son serviteur. Il a juste dit, regarde autre chose. Il y a autre chose là. Ouais, mais je ne vois rien. T'inquiète, je vais prier. Et avec Moïse, ça a été exactement la même chose. Il y a eu quelque chose de fort, de puissant qui s'est passé. Parce que c'est là où nous avons besoin vraiment de comprendre, c'est que c'est Dieu qui doit contrôler nos yeux. C'est Dieu qui doit contrôler tes yeux. Et si tu le laisses faire, il va diriger les yeux là où il faut. Alors, au bon endroit, là où tu as besoin d'avoir les yeux fixés. Et j'ai cet exemple avec David contre Goliath. Dans 1 Samuel chapitre 17 verset 11. Il est dit ceci, « Saül et tout Israël furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Goliath jeta un défi à l'armée d'Israël dans ce passage, puisqu'il est dit que Saül et tout Israël furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Le peuple d'Israël était là face à un géant et la Bible nous dit que ce géant faisait 2,95 m. C'est vrai, ça refroidit. Je conçois que face à 2,95 m de muscles, disons qu'on aurait envie de négocier. Sauf que ce n'est pas dans les pensées de Dieu. On ne négocie pas avec l'adversité. On ne négocie pas avec l'adversaire. On ne négocie pas avec les problèmes. On ne va pas les enjoliver. On ne va pas faire avec. On ne va pas les garder, les entretenir en disant on va apaiser la douleur. Il faut les confronter. Il ne faut pas les confronter en les regardant en face, en les défiant en face. Il faut les confronter en regardant à Jésus. Et c'est ce que fait Élisée, je répète, c'est ce qu'a fait Moïse, où lui, il a regardé les yeux fixés sur le maître. Et là, il nous a parlé de David face à Goliath. Et Goliath était rempli de haine, rempli de violence. Et il dit, donnez-moi un homme. Et là, j'imagine avec sa voix rauque, avec ses muscles son expérience, avec toute sa cape et son bouclier, sa lance. J'imagine cet homme rempli de haine, de violence, qui en voulait à ce peuple et surtout à ce Dieu. Et là, il y a comme de la haine qui a pris place. Donnez-moi un homme. Et mon frère, ma sœur, si tu regardes avec tes yeux cette situation, tu es déjà vaincu. Le peuple d'Israël, quand ils ont regardé avec les yeux humains, ils étaient déjà vaincus. Parce que la crainte a commencé à prendre place. La réalité va te dominer. La réalité va te focaliser sur le géant, ton géant. Mais la vérité va te délivrer. Et c'est là, c'est le titre de ma prédication, la vérité est supérieure à la réalité. La réalité, c'est ce géant, mais la vérité, c'est la parole de Dieu. qui est une épée à double tranchant, séparant jointures et moelles, âme et esprit. Elle juge les sentiments des cœurs. Dieu veut te montrer juste qu'il te demande de dominer sur la réalité par sa vérité. C'est ce qui s'est passé avec Lazare. Alors que Lazare était déjà mort depuis quelque temps, il sentait déjà. Quand Jésus arrive, il dit, mais vous inquiétez pas, il dort. Mais tout le monde était plié en deux. Jésus, attends, il sent déjà, tu me dis qu'il dort. N'importe quoi. Sauf que Jésus avait un autre regard. Lui, il était dans les réalités divines. Il y avait certes une réalité qui était là, c'était la mort. Certes, c'est vrai. Mais Jésus, lui, voyait autre chose. Comme Élisée a vu autre chose. Comme Moïse a vu autre chose. Comme Daniel a vu autre chose. Et comme toi, tu dois voir autre chose. C'est-à-dire que le Seigneur, juste que tu rehausses finalement le standard spirituel. Et comme il est dit dans ce passage, verset 42, le Philistin regarda, et c'est là le côté très très important de la chose. Je vais vous expliquer à quel moment Goliath a été vaincu. C'est au verset 42. Au verset 42, Goliath a été vaincu dans ce passage. Il dit ceci, le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant. Là où les hommes te voient comme un enfant, Dieu te voit comme un géant. C'est-à-dire que le Goliath a méprisé David, mais il ne savait pas, il ne pouvait pas voir lui, il n'était pas dans le spirituel divin, il était dans le spirituel ténébreux, il ne pouvait pas voir la réalité divine. Mais il a vu en ce gamin, un petit minus qui était là. Sauf que Dieu lui voyait en David un héros de la foi, et ce héros c'est toi. C'est juste toi. C'est toi que Dieu te demande juste de rehausser le regard. Et c'est ce qui s'est passé avec David. Ce jeune David, ce gamin, c'est vrai que c'était un gamin. C'est une réalité. Il était en train de garder les brebis. Et c'était un berger. Et il aidait son père. Il était toujours avec lui alors que tous ses frères étaient à la guerre. Et à un moment donné, son père lui dit, écoute, ce serait bien que tu prennes un petit peu de nourriture pour tes frères, pour qu'ils soient nourris, pour qu'ils soient revigorés. Et puis voilà, il continue le combat. Oh, il est parti en tant que jeune. Et il est allé donner à manger à ses frères. Sauf que là, il a vu une autre réalité. Des frères qui étaient peureux, des frères qui subissaient une réalité terrestre, des frères qui étaient là paralysés face à un Goliath, face à des paroles mensongères, face à, je dirais, à l'apparence. Et vous savez comme moi que souvent l'apparence est trompeuse. Et David lui dit, mais ils sont fous quoi? Mais qu'est-ce qui se passe chez eux? Et il n'osait pas trop parler avec ses frères parce qu'il était déjà méprisé par ses frères. Et ça, vous savez, on est souvent méprisé en tant que chrétien, non? On n'est pas toujours compris en tant que chrétien. Parce qu'on nous prend pour des illuminés, on nous prend pour des personnes, des extraterrestres. Et David, quand il arrive là, tout jeune, sans aucune expérience, et vous savez, je vais vous dire une chose, pas besoin d'avoir beaucoup d'expérience dans la foi pour vivre ça. David n'avait pas d'expérience pour combattre Goliath. Ce n'était pas un expert au combat, il n'est pas passé à l'école biblique du combat spirituel. Et pas allé en formation, je dirais, pour devenir une élite spirituelle. Il n'est pas sorti là avec toutes sortes de diplômes en disant « maintenant je peux combattre les plus grands géants ». C'est faux. C'est bien de faire des études, amen, en théologie, gloire à Dieu, et je suis pour, il faut y aller. Et moi, je continue régulièrement, j'étudie pour aller encore plus loin, pour mieux connaître la parole de Dieu. C'est juste indispensable. Mais écoutez-moi bien, frères et sœurs, pas besoin d'avoir 25 ans de conversion et une pire expérience dans la foi chrétienne pour vivre ce que David a vécu. Lui, ce que Dieu te demande, c'est tout simplement que tu regardes à lui, les yeux fixés sur le rémunérateur. De voir une autre réalité que celle qui est en face de toi, de 2,95 m de muscles. Et c'est ce qui a révolté David. David dit, mais vous ne comprenez pas la réalité spirituelle. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? Tout ça parce qu'eux, ils étaient restés charnels, alors que David était spirituel. David, lui, regardait la vérité, que la vérité était supérieure à la réalité. Or que eux, ses frères et tout le peuple, c'était le contraire. C'est-à-dire que la réalité était supérieure à la vérité. Et tant que la réalité est supérieure à la vérité, tu manqueras le but. Le péché, c'est pas mentir, c'est pas tricher, c'est rater son but. Rater son but, c'est ne pas pouvoir rentrer dans ce à quoi Dieu t'appelle. Et Dieu t'appelle à dominer ce qui te domine, à prendre autorité sur ce qui t'a écrasé, et c'est la vérité qui t'affranchira. Et c'est pour ça que je te dis que la vérité domine sur la réalité, et c'est ce qui s'est passé dans ce texte. C'est incroyable ce qui se passe. Et là, à partir de là, Goliath a vu déjà sa défaite, puisqu'il est dit que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu lui regarde au cœur. Amen. Dieu regarde à ton cœur. Ce matin, Dieu regarde à ton cœur. Il sait ce que tu vis, il sait ce que tu subis. Mais Goliath a perdu la bataille à ce moment-là. Il nous a dit au verset 45 de ce texte, David a dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot et tout ce que tu veux, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » On n'a pas les mêmes valeurs. Et c'est ce qu'a dit David dans ce texte. Il dit, Goliath, t'es grand, t'es fort, t'es beau, t'es admiré de tous, mais on n'a pas les mêmes valeurs. Tu ne vois pas les mêmes choses que moi. On n'est pas sur le même registre. Tout le monde t'envie, moi on me déteste, mais peu importe. La question, c'est de savoir, est-ce que je suis dans la vérité ou pas? Et là, dans ce passage, ce qui m'a interpellé, c'est que David est tellement connecté avec le divin, tellement connecté avec Dieu, qu'il va dire une phrase incroyable qui va faire paralyser tout le monde. Au verset 46, « Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. » Ta tête, elle sera entre mes mains. Tout ça, parce que David, parce que Daniel, Moïse, Élisée et tant d'autres dans la Bible ont eu les regards au bon endroit, ont réalisé que la vérité était supérieure à la réalité. Tu as une réalité qui est ici-bas aujourd'hui. Si les musiciens pouvaient venir, s'il vous plaît, merci. Il y a une réalité qui est là, elle est incontestable. Seigneur voudrait que tu rehausses le standard spirituel sur tes yeux. Que le Seigneur puisse poser sa main de manière particulière sur ta vie. Et peut-être faire cette prière en disant, Seigneur, ouvre mes yeux de mon cœur. Montre-moi tes réalités. Brise l'intimidation, la peur, la crainte. Seigneur, permets qu'aujourd'hui, je puisse vraiment rentrer dans une dimension avec Dieu. Alléluia. Est-ce que les musiciens, vous pouvez venir, s'il vous plaît, merci. Que vraiment, nous puissions réaliser ce matin que Dieu, il est là. On le sait. Dieu, il vit en nous, pour nous. Il est avec nous. Il est, dans notre quotidien. Chaque jour de notre vie, on le voit. Il est fidèle, je dirais, à ses paroles. Il nous accompagne. Il nous challenge. Il nous coach. Il nous fortifie. Il nous parle. Il nous élève. Il nous encourage. On passe des moments difficiles. Il est là pour nous consoler. C'est-à-dire, depuis des années, tu as un Dieu extraordinaire avec toi. Et ce Dieu extraordinaire, il faudrait juste te dire ce matin, rehausse les regards. Rehausse ton regard. Sache que la vérité est supérieure à la réalité. Que la vérité de Dieu sur ta vie va dominer sur la réalité que tu vis, que tu subis peut-être. Ce matin, là, je parle juste d'autorité. J'aurais pu aborder le sujet, j'aurais pu même mettre en titre l'autorité de Christ en nous. C'est-à-dire que vraiment, ce matin, tout ce que tu vis dans ton quotidien, tout ce que tu subis, tout ce qui est là devant toi et que tu n'arrives pas à te débarrasser, et tu pries que Dieu lâche prise, que le Seigneur agisse, que le Seigneur pose sa main, que le Seigneur se manifeste de manière puissante et ceci et cela. Ce matin, regarde une autre réalité. Élisée n'a pas commencé à combattre les chars. Élisée n'a pas commencé à combattre les chevaux. Il n'a pas commencé à combattre tout ce qui était autour de lui. Moïse n'a pas combattu Pharaon. Daniel n'a pas combattu le roi. David n'a pas combattu Goliath. C'est Dieu qui l'a fait à leur place. Ils ont fait juste une chose, c'est de regarder au bon endroit pour avoir un cœur en paix, pour avoir un cœur qu'il ne soit plus troublé, sans crainte, sans paralysie, parce que c'est souvent ça qui nous paralyse. C'est la réalité. Que vraiment le Seigneur, ce matin, te fasse voir une autre dimension spirituelle. J'aimerais que nous puissions courber nos fronts. Alors que nous sommes là, les yeux fermés, les têtes baissées, on va se laisser conduire par ce chant. Et alors qu'on va se laisser conduire par ce chant, qu'on va écouter ces paroles, il y a peut-être un frère, une sœur, peut-être plusieurs d'entre vous ce matin qui ont besoin vraiment de réactiver les regards divins sur votre vie. Que Dieu vienne toucher votre cœur. Que Dieu vienne poser sa main sur vos yeux. Que le Seigneur ait le contrôle de ton regard. Que tu puisses regarder non plus comme toi tu regardes, mais comme lui regarde. Que tu puisses vraiment réaliser qu'au-delà de la réalité humaine, il y a une réalité divine. Et que tu puisses avoir les yeux fixés sur le rémunérateur. Et que s'il y a la colère du roi contre Moïse, s'il y a la colère du roi contre Daniel, s'il y a la colère du roi contre Élisée, s'il y a la colère de Goliath contre David, la réalité spirituelle va te permettre de faire taire ces colères et d'écraser l'adversaire. Changer une réalité humaine en réalité spirituelle et divine, juste au travers des yeux fixés sur le rémunérateur. Et Dieu fera le reste. Tu as besoin vraiment de vivre cela ce matin. Tu as vraiment besoin que Dieu oriente tes regards. Et c'est tellement difficile, c'est tellement douloureux parfois, c'est tellement peu facile de regarder au Seigneur quand une réalité nous fait souffrir. C'est vrai. C'est pour ça que je le prêche ce matin. Mais Dieu n'est pas là pour te juger. Élisée n'a pas jugé ce serviteur, il ne te jugera pas. Il veut juste que ce matin tu répondes à son appel. Alors pendant ce chant, si tu désires que je prie pour toi, que nous puissions prier ensemble, puissions s'activer dans la prière pour que Dieu t'aide et t'amène plus loin, alors tout simplement là où tu es, tu te lèves à ta place pendant que on se laisse conduire par ce chant, par ces belles paroles qui veulent nous tirer vers le haut. Alléluia.